Arrête de faire le bébé. Allez, dépêche-toi. Allez, j'ai pas que ça à faire, moi.
Allez, dépêche-toi.
Ça suffit maintenant.
C'est comme ça, c'est tout. C'est pas toi qui décides.
Dis merci. Fais un bisou.
Attention, je compte jusqu'à 3.
1, 2. Qu'est-ce que je t'avais dit?
Ben, je t'avais prévenu, là. Oh, ben ça va, je t'ai pas fait mal.
Laisse, tu vas pas y arriver.
Ne touche pas. J'ai dit non.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission C'est pour ton bien avec Élise Fournier et Alexia Simard. Bonjour Élise.
Bonjour Alexia.
Dans cette émission, nous allons discuter de la pose des limites, des règles, des sanctions, des punitions. Et j'imagine que c'est un sujet qui vient souvent lors de tes consultations.
Oui, c'est un sujet, la pose de limites, c'est assez central.
Donc ça concerne tout le monde?
Il me semble.
Et c'est toujours en voie d'acquisition?
C'est toujours en voie d'acquisition, puis je pense que c'est un sujet qui concerne pas seulement la relation parent-enfant, mais qui concerne la relation à partir du moment où on est deux. Il y a cette question de la pose de limites qui apparaît.
Alors pour illustrer ce thème, nous allons partir d'un extrait de film, comme à chaque émission. Il s'agit du film « Entre les murs » qui raconte le quotidien d'un professeur de français dans un collège réputé difficile. Donc juste pour petit rappel, c'est un film qui a été écrit, qui est réalisé par Laurent Cantet avec François Bégodeau, qui est l'auteur de ce récit et qui est un récit parti d'une vraie expérience de prof. Donc on l'écoute dans cet extrait. Donc c'est une élève qui s'est opposée à la demande du prof. Il lui demandait de lire un extrait de livre et elle se refuse de le faire. Et voilà comment ça se passe.
Donne-moi ton carnet de correspondance.
Pourquoi ?
Tu sais très bien pourquoi. Non, 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 tu me le donnes, poliment. Ça suffit, même. Et tu pourras mettre une photo un jour, peut-être, hein ? Tu trouves que c'est normal quand un prof de français te demande de lire, de lui dire qu'il doit te taper envie ? Tu trouves que c'est complètement normal ?
Mais il n'y a pas que moi dans la classe.
Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas que toi qui fais des conneries que je dois pas te sanctionner pour autant, non? Tu crois pas?
Okay.
Je veux que tu t'excuses pour ce que tu t'as fait tout à l'heure. J'écoute.
Je m'excuse d'avoir été insolente avec
vous. Non. Je m'excuse, monsieur, d'avoir été insolente avec vous, mais tu le dis sincèrement. Je veux que ce soit des vraies excuses. Les deux, là, qu'est-ce que vous faites, en fait?
Oui,
oui.
Je peux...
Dépêche-toi, j'écoute.
Mais, je m'excuse d'avoir été insolente avec vous. Je peux y aller, s'il vous plaît?
Ça va.
Je le pensais pas.
On vient d'entendre l'extrait du film Entre les murs, où le professeur demande à son élève de s'excuser, de réparer. Mmh. Et il sanctionne aussi en demandant le cahier. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes cet extrait-là?
Bah, alors moi, je ressens une extrême violence, en fait. Je trouve ça... Je trouve qu'il n'y a rien dans cet échange qui peut favoriser la relation, qui peut permettre la relation. Enfin, on a déjà parlé des 12 obstacles à la communication, hein, décrits par Thomas Gordon, mais voilà, là, il y en a qui sont utilisés, notamment voilà, l'ordre, l'exigence, tu me donnes ton carnet maintenant. Et puis le reproche, tu crois que c'est normal de ne pas faire ça alors que je te le demande. Enfin, donc évidemment, en face, il n'y a aucune coopération. Et voilà, c'est toujours, enfin, c'est le tu qui tue, quoi. Mmh. Si le prof parlait en jeu... Ben voilà, moi je me sens mal à l'aise avec cette situation, que tu refuses de lire, j'aimerais comprendre ce qui se passe, etc. Enfin, ça engendrerait pas du tout la même réaction en face. Voilà. Et finalement, on est dans un jeu de pouvoir, en fait, parce qu'il n'y en a aucun qui veut lâcher, et finalement, c'est sa position de prof qui fait qu'il est en supériorité, voilà, plus ou moins. Enfin, donc voilà, il exige des excuses qui n'ont aucune valeur, parce qu'il lui demande des excuses sincères, mais comment on peut exiger de quelqu'un des excuses sincères? Enfin... La sincérité, elle peut venir que de la personne qui va formuler des excuses.
Mmh. Et en même temps, on pourrait se dire, c'est un prof, donc il fait autorité, et il peut penser, en tant que prof, que lorsqu'il demande quelque chose à ses élèves, il doit être respecté.
Et oui. Bah oui, c'est bien ce que j'entends dans cette scène.
Voilà,
en tout cas,
c'est ça.
Que son statut, pour lui, du coup, implique le fait que, bah, on fait ce qu'il demande, en fait. Que c'est lui qui décide. Mmh. Voilà. Après, pour moi, enfin, moi, pour ma part, c'est pas de cette manière-là que j'ai envie d'être en relation avec les autres êtres humains, quel que soit leur âge, leur sexe, leur fonction, etc. C'est pas ce à quoi j'aspire, et je pense que ça, que ce genre de rapport, en fait, ça entraîne aucune coopération, enfin, en face, quoi.
Oui, d'ailleurs, on voit bien la gamine, elle a pas franchement envie de s'excuser, c'est pas sincère.
Oui, puis elle le dit à la fin, toute mère, c'était pas vrai.
C'était pas pour de vrai. Et dans l'extrait, il balance, il donne un grand coup de pied dans la chaise. Donc, il y a quand même, peut-être qu'il prend conscience d'un échec, là, quelque part, dans la relation. Et il n'est pas en mesure de faire autrement. En tout cas, il ne sait pas comment faire autrement.
Mais non, il ne sait pas comment faire autrement.
Parce qu'il pose une limite. Mmh. Et c'est important de poser des limites. Mmh. Et donc là, ma question, c'est quelle différence il y a entre poser des limites et punir? C'est-à-dire qu'il a trouvé ce moyen, cette stratégie pour poser sa limite en punissant et en essayant de demander réparation. Mais est-ce qu'il y a un autre moyen de poser des limites?
Alors, disons que la punition, c'est quand même... On est très imprégné de ce fonctionnement-là, hein, dans tous les lieux qu'on fréquente dans notre société. C'est quelque chose qui est présent dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les écoles, dans les familles. Enfin, ouais, c'est un fonctionnement qu'on connaît bien. La punition, elle a deux objectifs. Ça va être... il va payer ce qu'il vient de faire. Il ou elle va payer ce qu'il vient de faire. Et il va comprendre. Ou elle va comprendre. Et finalement, l'objectif de la punition, ça va être de blesser... de faire mal à l'autre, dans le but de l'amener à faire bien, c'est-à-dire à faire comme nous, on a décidé. Ce qui n'implique pas du tout le même genre de rapport que le fait, quand on est dans une situation qui est difficile, de se dire, bon, alors, lui, il en est là, moi, j'en suis là, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ça se confronte, en fait?
Ce que tu dis, c'est que quand on choisit la punition, c'est qu'il y en a un qui veut gagner... sur l'autre. Il y a un gagnant, il y a un perdant.
Bah, clairement, pour moi, on est dans un rapport de force, dans un jeu de pouvoir, en fait. C'est vraiment ça. Et finalement, enfin, une punition, ça va être tout ce qu'on va faire sous la contrainte pour démontrer à l'autre qu'il a eu tort et qu'il peut faire autrement. Ça rentre dans la catégorie de la punition. C'est vraiment ça. Donc, finalement, c'est aussi prendre conscience des effets de tout ça à long terme, parce que quelquefois, je dis quelquefois parce que parfois ça marche pas du tout, parce que quand on punit un enfant, enfin en l'occurrence on parle des enfants, donc on va dire quand on punit un enfant, ça peut créer deux réactions, soit une réaction de rébellion, donc ça va être encore pire, soit une réaction de soumission, donc on va dans l'immédiat, ça va nous contenter, parce que finalement il va y avoir une obéissance assez immédiate sur la situation elle-même, donc ça vient nous conforter dans le fait que...
ça marche.
On est dans toute notre puissance, toute puissance d'adulte. Voilà. La dangerosité de ces pratiques qu'on va nommer punition, sanction, chantage, menace, humiliation, etc., c'est de faire obtempérer l'autre dans l'instant. Mais à long terme, il y a des conséquences qui sont assez importantes, notamment dans le fait que ça ne va pas aider les enfants, là en l'occurrence, à développer des valeurs morales. C'est-à-dire que l'enfant, là, il va obtempérer, il va obéir pour éviter d'être blessé. Et non pas parce qu'il comprend la situation ou parce qu'il apprend de cette situation.
Oui, ça n'a aucun effet pédagogique.
Ça n'a aucun effet pédagogique, absolument aucun.
Oui.
Voilà, et ça ne va pas développer plus de coopération dans la relation. Voilà, donc ça, c'est important. Voilà, après, on sait aussi qu'il y a des corrélations qui sont faites. Alors là, voilà, j'y vais un peu fort, mais des corrélations qui sont faites entre des enfants qui sont souvent punis et un attachement qui est peu solide entre parents et enfants. Une relation qui est peu sécurisante, voire insécurisante. On sait que les enfants qui sont punis, ils ont... un quotient intellectuel qui est plus bas, qui a plus de débordements affectifs, de désordres affectifs, qui peuvent s'exprimer par de la toxicomanie, de la dépression, un risque de suicide plus élevé, etc., de la violence. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui sont punis, c'est ce qui leur arrive, mais il y a plus de risques. Et pour moi, c'est un enjeu sociétal, en fait, au niveau de l'apaisement des relations, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu...
Mais alors, quand je t'entends dire tout ça, je sens aussi en moi le... Mais oui, mais à un moment donné, il faut bien dire à l'enfant qu'il y a des limites, qu'il y a des choses... des limites qu'il ne doit pas franchir. Alors comment traduire ça autrement que par des punitions, des sanctions, des récompenses? Donc tu as montré que même la récompense est rentrée dans le plaisir de l'adulte, en fin de compte, et pas... Et donc ça n'a pas de bons effets à long terme.
Et oui, parce qu'en fait, les récompenses, c'est pareil, c'est le même... C'est le même pendant, c'est-à-dire j'aime beaucoup le travail d'Alfie Kohn là-dessus, sur l'amour inconditionnel. C'est qu'en fait, tant les récompenses que les punitions, c'est le même combat. Parce qu'en fait, c'est cette idée que l'amour parental va être donné ou retiré en fonction du comportement de l'enfant. Donc je t'aime si.
D'accord, donc ça voilà. il y a une dépendance.
Mais oui, du coup, l'enfant, il est plus motivé par le fait de se réaliser, de s'épanouir, de comprendre le monde. Il est motivé par le fait d'être aimé ou de ne pas être aimé par son parent. Du coup, ça déplace complètement au lieu d'être dans son moteur interne, parce qu'il y a un moteur interne très fort chez l'être humain qui n'a de cesse que de vouloir découvrir et comprendre le monde qui l'environne et les humains et lui-même, etc. Mais du coup, on entrave, on enraye ce moteur-là quand on est dans ces fonctionnements-là de système de bâton-carotte, de punition-récompense. C'est vraiment un système dont on est prisonnier, en fait. Alors effectivement, après, j'entends que tu t'interroges sur... bah oui, mais alors du coup, comment on fait ? Pour moi, c'est poser un regard différent aussi sur les comportements qu'on va juger inappropriés chez l'enfant. Vraiment, on en parle à chaque émission, et voilà, c'est certainement un peu redondant, et en même temps, pour moi, c'est vraiment au cœur de beaucoup de clés de compréhension, c'est que finalement, ça va être de partir à la recherche des besoins profonds qui s'expriment. Il y a 3 raisons pour lesquelles un enfant il va se comporter mal, entre guillemets, où on va juger qu'il a un comportement inapproprié. La première, ça va être qu'il essaie de satisfaire un besoin qui est légitime. Besoin de reconnaissance, besoin d'attention, besoin d'être aimé, besoin d'explorer, besoin d'autonomie, enfin voilà, il y en a tout plein. La deuxième, ça peut être qu'il manque d'informations sur la situation elle-même, ou bien qu'il est trop jeune pour comprendre ou se souvenir des règles qu'on va pouvoir lui rappeler de manière bienveillante et calmement. Et puis la troisième, ça peut être parce qu'il est troublé, entravé par une émotion qu'il porte et qui souffre d'un traumatisme qui a été non guéri. Un traumatisme qui peut remonter à du transgénérationnel, à un moment qui a été vécu pendant la grossesse, à un moment pendant l'accouchement, à un moment pendant la toute petite enfance, etc. Donc voilà.
Donc il va avoir des réactions, et donc l'idée de ce que tu dis, c'est qu'il va falloir que l'adulte se mette à la place de l'enfant et essaie de comprendre ce qui se passe là pour trouver une solution qui est appropriée à ce moment-là.
Et ben finalement, du coup, ça va être de se brancher sur ces 3 choses, quoi. Et en l'occurrence, dans les alternatives, alors peut-être qu'on va pas pouvoir parler de tout ça aujourd'hui, mais dans les alternatives aux punitions, il y a l'écoute des émotions qui est quand même une clé très importante. C'est-à-dire que dans une situation, par exemple, où j'ai 2 enfants, l'aîné veut frapper le deuxième, je vais bien sûr pas lui dire que c'est ok pour moi qu'il frappe sa sœur. Je vais m'interposer. Mais au lieu d'isoler mon enfant et de le punir en lui disant que c'est mal comme il se comporte, je vais le prendre avec moi, puis je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour lui. Est-ce qu'il y a un besoin là qui a besoin d'être satisfait, qui crie famine ? Est-ce que juste il y a quelque chose qu'il a pas compris dans les règles que je pose, ou qu'il a juste besoin d'être rappelé à la règle ? Bon, a priori, dans cette situation, c'est pas vraiment ça. Et est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées ? Et je vais aller écouter ça. Ouais.
Donc, on approfondira la façon, la forme que ça peut prendre dans la relation parent-enfant.
Oui.
Là, la forme que ça a pris, c'était une stratégie qui porte pas des fruits positifs à long terme. C'est ce que tu disais.
La punition, c'est une stratégie.
Voilà. Et en attendant, je vous encourage tous à découvrir un livre qui s'appelle « Parents efficaces » de Thomas Gordon, que je suis en train de lire en ce moment et que je trouve vraiment très, très clair justement sur comment avoir une relation, comment faciliter la communication parent-enfant.
Oui, être dans une relation gagnant-gagnant en fait.
Voilà, c'est ça. C'est sortir du perdant-gagnant et rentrer dans une relation gagnant-gagnant. Et on se retrouve le mois prochain.
Mais oui, avec
pour
plaisir.
Pour approfondir ce thème qui est très très large.
C'est ça.
Merci beaucoup, Élise, de tes éclairages. À bientôt.
Il y a un arbre, je picole dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu décolles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Je suis l'arbre, oiseau vole, et s'envole, tiens, voilà le printemps. Il y a donc 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, j'y provole, mais s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, folle, vol au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous des branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Et un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de cet amant. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de cet amant. Il y a un arbre, pigeon vole et s'envole, il y a un arbre.